Bonsoir et bienvenue dans cette émission. La Commission électorale nationale indépendante reporte les élections des conseillers urbains, des bourgmestres et bourgmestres adjoints. La CENI dit manquer des moyens pour organiser ces élections et c'est cela qui justifie ces reports. Son directeur des communications, Jean-Baptiste Itipo, l'a affirmé dimanche 16 juin à Radio Capi. Il a également précisé que les candidatures déposées sont toujours valables. Ces élections ont été initialement fixées au jeudi 19 juin courant. Jean-Baptiste Itipo a en outre précisé que la CENI va fixer dans les meilleurs délais la prochaine date pour la tenue de ces élections. Par ailleurs, les conseillers municipaux élus depuis le mois de décembre 2023 affirment n'avoir rien reçu de la part du gouvernement, ni leur salaire, ni les frais de fonctionnement, et se plaignent de travailler dans des conditions difficiles. Comment analyser cette situation? C'est l'objet du débat dès ce soir et nous recevons dans cette émission M. Joseph Senda, il est directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Bonsoir M. Joseph Senda.
Bonsoir M.
Pati Koumambou, il est président du conseil communal de la commune de Matete dans la ville de Kinshasa. Bonsoir M. Pati Koumambou.
Bonsoir.
Et Maître Soudi Kimputu Alimasi, il est expert en décentralisation. Bonsoir Maître Soudi Kimputu Alimasi.
Bonsoir.
Bienvenue à tous, une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous le disions, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, ne dispose pas encore des budgets pour l'organisation des élections des conseillers municipaux, bourgmestres et bourgmestres adjoints, prévus ce jeudi 19 juin 2024. Cela justifie les reports de ces scrutins. C'est ce qu'a affirmé Jean-Baptiste Itipo, directeur en charge de la communication à la centrale électorale, ce dimanche 16 juin, à Radio Capi. Il précise par ailleurs que les candidatures déposées sont toujours valables. Jean-Baptiste Itipo le dit à Paul Matendo.
La CENI justifie ces reports pour des contraintes d'ordre financier. Il s'agit des contraintes d'ordre financier. Ça veut simplement dire que la CENI ne dispose pas encore de budget pour l'organisation matérielle des 10 scrutins qui rentrent dans le cadre du budget, de l'exécution du budget 2024. Le matériel ne peut être acheté que lorsque la CENI dispose de moyens. La CENI ne dispose pas de moyens financiers, donc ça sera difficile pour avoir de matériel. C'est prévu dans le budget 2024, mais qui n'est pas encore exécuté au niveau de la CENI. C'est vrai que dans le communiqué, la CENI réaffirme fixer dans le meilleur délai les prochaines dates. On ne peut pas dire que c'est dans tel ou tel nombre de mois. Cette décision relève de l'unique compétence de l'Assemblée plénière de la CENI.
Merci Joseph Senda, vous êtes directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante CENI. La CENI, on vient de le suivre à travers M. Itipo. La CENI reporte les élections des conseillers urbains, bourgmestres et bourgmestres adjoints, suite, n'est-ce pas, aux contraintes financières. Mais on se rappelle qu'il y avait déjà un calendrier qui avait été fixé. Et pourquoi élaborer un calendrier et même demander aux potentiels candidats de déposer leur dossier quand on sait qu'on ne détient pas encore le budget pour organiser ces élections?
Merci beaucoup pour la question. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les élections ou les scrutins indirects avaient déjà été inclus dans le calendrier général de la CENI. Ainsi donc, de la même manière qu'on a pensé que le gouvernement devrait financer les indirects de la même manière qu'il a financé les directs. Donc, il n'y avait pas de raison de soustraire les scrutins indirects de scrutins directs. Donc, et vous vous souviendrez que lorsque nous avions organisé les élections du 20 décembre 2023, il y avait 4 scrutins, dont l'élection des commissaires et de conseillers communaux. Parce que nous savions déjà que après l'élection des conseils communaux, on devrait élire les conseillers urbains, les bourgmestres et enfin les maires adjoints. D'autant plus que nous n'avions pas prévu, nous n'avons pas organisé les élections des conseillers des secteurs qui devraient à leur tour élire les chefs de secteur et leurs adjoints. Donc, ça rentre dans la programmation normale de la CENI, d'autant plus que cela a été prévu déjà depuis longtemps dans son plan opérationnel, dans le calendrier publié, qui aura l'élection des conseillers municipaux qui, à leur tour, devraient élire les conseillers urbains, qui devraient élire à leur tour les maires. Les conseillers municipaux doivent également élire les bourgmestres. C'est à cette tâche que nous sommes. Donc nous ne pouvions pas au départ dire qu'on ne peut pas le faire parce que le gouvernement, non, le gouvernement avait accepté le calendrier présenté, le gouvernement avait accepté le budget qui reprenait ces scrutins-là, donc il n'y avait pas de raison que nous ne puissions pas les aligner parce que les assurances avaient été données.
Et le budget pour organiser ces élections des conseillers urbains, des bourgmestres et bourgmestres adjoints est estimé à combien?
Bon, il faut le dire que je n'ai pas sans tête, hein, sincèrement, je n'ai pas sans tête, mais ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas les moyens présentement pour le faire, comme le communiqué l'a dit et comme mon collègue directeur de la communication vous l'a dit, on n'a pas de moyens pour le faire. Nous avions déjà procédé au BRTC, c'est-à-dire à la réception et traitement de candidatures de conseillers urbains et de bourgmestres, et de manière générale, les bureaux définitifs des conseillers municipaux sont déjà installés. Il reste quelques endroits où il faut arriver à pouvoir installer les bureaux définitifs, mais de manière générale, nous avons déjà suffisamment de bureaux définitifs installés et je crois que dès que les moyens seront mis à nos dispositions, nous allons passer à l'élection des conseillers urbains parce que les bureaux de réception sont déjà clôturés et nous avons suffisamment de candidats. Et si vous le voulez, nous avons 1308 candidats conseillers urbains, 1196 conseillers bourgmestres, candidats bourgmestres et bourgmestres adjoints. Donc 1308 candidats conseillers urbains, 1196 ou bien 1196 candidats bourgmestres et bourgmestres adjoints. C'est ce que nous avons dans nos statistiques jusqu'à ce jour.
Oui, monsieur Tipo, directeur de la communication de la CENI, a affirmé que les matériels ne peuvent être achetés que lorsque la CENI dispose des moyens. Il dit que la CENI ne dispose pas encore des moyens pour le moment, donc ça sera difficile pour elle, n'est-ce pas, d'avoir des matériels. Il s'agit de quel matériel, monsieur Senda? Est-ce que vous n'allez pas utiliser les matériels qui ont été utilisés récemment?
Au-delà du matériel, il y a d'abord le personnel à payer. Il y a le personnel qu'il faudra payer parce que ça sera organisé, certes, avec des grands électeurs en petit nombre, mais il y aura des bureaux de vote avec un personnel qu'il faut payer. Donc, c'est déjà un coût qu'il faut pouvoir tenir compte.
Nous avons. Et les matériels qui ont été utilisés récemment, ce n'est pas les mêmes matériels qui sont utilisés pour ces élections?
Donc, quand on parle de matériel, on ne pense pas seulement aux dispositifs électroniques de vote. Il y a d'autres matériels qui interviennent là-dedans. Il n'y a pas que ça. Donc, nous avions programmé, par exemple, les bulletins pour la députation, pour les quatre scrutins directs. C'est différent des bulletins pour les autres scrutins. Donc, il faut bien qu'on tienne compte de ces éléments-là. Mais ici, nous mettons en évidence le volet le plus important, c'est le paiement du personnel, parce que ce seront des bureaux de vote. Un bureau de vote, c'est plus ou moins 5 membres du bureau de vote. Donc, il faut devoir les payer. Et il y a aussi la supervision de ces opérations-là. Il y a la formation de ceux qui doivent travailler dans le bureau de vote. Il y a le déploiement de peu de matériel que nous avons, mais il faut devoir les déployer jusqu'aux endroits où le vote doit se tenir. Et nous avons aussi des lieux de scrutin qui ne sont pas appropriés pour pouvoir accueillir un bureau de vote. Il faut donc pouvoir les équiper. Vous savez que pour les circonscriptions de conseillers communaux ou de conseillers urbains, ce sont les communes. Vous avez des endroits où les communes n'ont même pas de chaises. Il faut devoir équiper ces chaises-là. Et ça, c'est la CENI qui le fait. Donc, c'est très important. Donc, quand on fait allusion au manque de fonds, on ne rêve pas, on n'invente rien, on n'a pas d'argent pour faire ça. Quoique nous ayons budgétisé ça, mais présentement, nous n'avons rien.
Voilà,
c'est très important, nous n'avons absolument rien. Sinon, il n'y a pas de raison d'avoir programmé des scrutins et ne pas pouvoir les tenir après. Il n'y a pas de raison.
On a l'impression qu'il y a un flou, n'est-ce pas, dans la communication de la CENI, hein. Lorsque vous suivez M. Itipo, lorsqu'il a parlé du report, n'est-ce pas, de ces élections, et il n'a pas précisé la date à laquelle la CENI compte organiser ces élections. Vous le faites ainsi parce que vous n'êtes pas certain que vous aurez ce budget-là dans un avenir proche?
La date importe peu. Nous avons déjà un élément important, c'est que les candidats sont là. Okay? Le bureau de réception de candidature a reçu, comme je l'ai dit, 1308 candidats conseillers urbains. Nous avons 1196 candidats bourgmestres adjoints. Donc, les intéressés sont déjà là. Mais comme je viens de le dire, les candidats conseillers urbains seront élus par les conseillers municipaux ou communaux. OK? Et les bourgmestres seront également élus par les conseillers municipaux ou communaux. Nous avons 113 communes qui sont concernées par ces scrutins. Je vous dis que certaines communes qui doivent recevoir ces élections n'ont pas d'équipement. Il faut devoir y mettre même des chaises. Donc pour y mettre les chaises et les tables afin que ces gens soient en mesure de recevoir les candidats qui postulent au poste indiqué, il faut de l'argent, il faut des moyens pour le faire.
Monsieur Senda,
vous avez prévu tout ça.
Voilà, vous avez prévu tout ça, mais vous dites que ce qui importe, ce ne sont pas les dates, mais c'est plutôt les personnes qui doivent, n'est-ce pas, candidater, les personnes qui ont déposé les candidatures. Hein. On se rappelle que en 2015 ou 2016, les gens ont déposé leur candidature, ils avaient même payé leur caution, mais après, il n'y a pas eu d'élection et ces cautions n'ont jamais été remboursées. Est-ce qu'on n'est pas en train de... On ne tend pas vers une telle situation?
Bon, écoutez, on ne peut pas partir d'un cas exceptionnel pour généraliser et projeter, se dire qu'il en sera ainsi comme il a été à l'année où vous faites allusion. Nous avons programmé, et le gouvernement nous promet, nous avons confiance en notre gouvernement. Nous savons que pendant longtemps, les choses étaient au ralenti. Maintenant qu'il y a un gouvernement qui est mis en place, il mettra à notre disposition les moyens dont nous avons besoin pour organiser ces élections-là. Donc, on ne peut pas extrapoler, on ne peut pas conclure qu'il n'y aura rien du tout, dès lors qu'il y a eu le cas auquel vous faites allusion. Il n'y a pas de raison que nous puissions assez précocement et assez aveuglément extrapoler ou en déduire que les choses n'iraient pas pour le mieux.
Voilà. Et lorsque vous apprenez que les conseillers municipaux qui ont été élus depuis plus de 6 mois n'ont rien reçu jusque-là de la part du gouvernement, pas de salaire, pas des frais de fonctionnement, qu'est-ce que cela vous fait, vous, en tant que organe, n'est-ce pas, organisateur de ces élections?
Bon, je ne pense pas qu'ils soient les seuls à n'avoir pas été payés. Hein. Ils seront toujours payés parce qu'ils sont là au service de la République. À partir du moment où nous avions sorti un calendrier qui reprenait tout ça, et nous l'avons fait en collaboration avec le gouvernement qui s'était engagé à les financer, donc le gouvernement doit aller jusqu'à la fin de cette week. Donc avant de pouvoir faire quoi que ce soit, on a pris soin de se rassurer qu'on ne va pas faire telle chose. Et c'est pour cela que nous avons à programmer, sans nous gêner, sans nous empêcher, sans nous faire aucun souci, tous ces différents scrutins.
Merci.
Donc il n'y a vraiment pas de problème de quoi que ce soit. Les scrutins auront lieu dès lors que les moyens seront mis à notre disposition. Personnellement, je suis optimiste.
Merci. Patti Koumambou, vous êtes président du conseil communal de la commune de Matete dans la ville de Kinshasa. Et c'est vrai que vous avez aussi vos préoccupations que vous allez relever dans cette émission. Mais d'abord, comment vous réagissez à cette information de la CENI faisant état, n'est-ce pas, du report des élections des conseillers urbains, bourgmestres adjoints?
Merci pour la parole. Vraiment, sincèrement, c'est très décevant de ma part d'entendre la réaction de l'expert de la CENI. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'un calendrier a été déjà bien planifié, comme il a évoqué entre le gouvernement et la CENI, et après, subitement, à deux jours de l'ouverture de la campagne, nous sommes surpris de vivre tout ce qui a été dit comme report. Et je mentionne avec une date ultérieure. C'est vraiment inquiétant comme situation. Voilà.
Alors, vous, en tant que conseiller municipal, est-ce que vous pouvez nous parler de vos difficultés depuis que vous avez été proclamé comme étant élu?
Je dirais que vous l'avez déjà évoqué, ça fait pratiquement 6 mois que nous souffrons des frais d'installation sans émoluments, pour ne citer que ces deux éléments qui sont des difficultés énormes. Et je suis vraiment estomaqué de constater le sperme de la CNI en train de dire que nous serons toujours payés. Et moi, je me demande de laquelle manière il peut nous expliciter. Voilà.
Les salaires ont aussi un caractère alimentaire. Et lorsque vous dites que depuis 6 mois, vous n'êtes pas payé, comment vous vivez, monsieur Patti Koumambou?
Je pense que nous venons de lancer un cri d'alarme au gouvernement, à l'autorité de tutelle qui est le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'une institution est déjà en place et il n'y a aucune frais d'installation. Comment est-ce que vous voudrez que je vous explique notre souffrance?
Et lorsque vous plaignez auprès de ces autorités, qu'est-ce qu'elles vous disent?
Jusque-là, nous entamons le première démarche qui était une résolution du centre Thérésianum qui était le week-end passé. Et je pense qu'il y a déjà notre déclaration dans plusieurs médias. Et après cela, nous allons entamer par des audiences, essayer un peu de discuter avec les autorités compétentes.
Ok, mais est-ce que ces difficultés vous empêchent de vous acquitter de vos responsabilités, vous conseillers municipaux?
Bien évidemment, ça nous empêche énormément. Nous ne pouvons pas appliquer notre politique de travail, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État qui prône le développement à la base. Ça nous bloque.
Merci beaucoup, Monsieur Patti Koumambou. Maître Soudi Kimputo Alimasi, expert en décentralisation, comment vous analysez la décision de la CENI de reporter les élections du conseil urbain des bourgmestres et bourgmestres adjoints?
Merci beaucoup, Guy Maté. Je salue mes deux co-débatteurs avec lesquels nous partageons des points importants sur la vie et la survie des institutions de notre pays. Autour de cette question, je sens qu'il y a une sorte d'impréparation et quelque peu, excusez-moi les termes, il est trop dur, mais c'est ça la réalité, un peu d'irresponsabilité. Et cette irresponsabilité est partagée, à la fois au niveau du gouvernement et à la fois au niveau de la CENI. Je m'explique. Et les élections municipales qu'on a organisées, elles doivent aller de pair avec les élections locales. Parce qu'on ne peut pas, les municipales, elles ne sont que dans les centres urbains. Et comment on peut dire aujourd'hui on organise seulement les élections au niveau d'une partie des entités territoriales décentralisées qui occupent d'ailleurs. Parce que si nous voyons aujourd'hui un nombre de villes, quoi, on peut avoir au moins 96 villes sur l'ensemble du territoire national, au moins. Et quand on parle par exemple des secteurs et chefferies, c'est plus de 830 qui occupent presque, disons, 80 ou 90% de l'espace territorial national pour gérer. Et ce sont ces secteurs et chefferies qui gèrent les gros de nos populations. Les élections urbaines sont la conséquence de l'organisation des élections municipales qui doivent produire le conseiller urbain, et ceux-ci doivent à leur tour élire les maires, et ainsi de suite. Donc, si vous voyez comment le processus est en train de cheminer en termes de programmation, on ne peut pas arriver à produire un calendrier. Le gouvernement ne peut pas pousser la machine électorale à sortir un calendrier pour organiser les élections incomplètes, mais avec incertitude. Le processus de la décentralisation est en panne parce qu'il est très mal compris et par les dirigeants et par ceux qui sont censés l'exécuter. Sun City avait exprimé le ras-le-bol de la centralisation et la volonté de toutes les couches de population représentées autour de ce grand forum avait opté pour le changement du cadre juridique sur la gestion qui était totalement centralisée. Et lorsqu'on parle du développement local, on ne vise pas les provinces. Les provinces, ce sont les centres de coordination. Ce sont ces entités locales, municipales et urbaines, qui sont censées promouvoir le développement local. Parce qu'ils sont ils sont en face des besoins sociaux de base de la population, et c'est eux qui gèrent la population. Et c'est eux qui doivent engager des grands projets de développement pour doter la population des éléments nécessaires. Sun City était en train de lutter aussi pour la dépolitisation des institutions. Aujourd'hui, on est rentré à 500% de la politisation des institutions. On se concentre à organiser les élections provinciales aujourd'hui et on croit avoir atteint l'objectif du développement local. Malheureusement, parce que les deux, trois cycles ici, depuis la promulgation des lois de mise en œuvre, depuis la promulgation de la Constitution de 2006, si vous voyez aujourd'hui toutes les élections qui ont été organisées, nous n'avons pas de développement dans nos entités. Tout simplement parce que l'instance de coordination, qui est la province, n'a pas joué le rôle voulu par les législateurs. Il a été question de permettre à la population locale de se faire gérer par ses propres dirigeants élus. C'est difficile de les réaliser aujourd'hui, parce que tout simplement, l'organisation même de ces élections-là, par la centrale électorale, elle est surévaluée. Les élections de 2018 ont coûté 400 millions de dollars. Celles de 2023 ont coûté 1 milliard de dollars. Deux fois et demi. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions arriver à cela? Voilà pourquoi ça devient impossible d'organiser les autres élections, parce que les élections sont surévaluées chez nous. Nous organisons un cycle électoral, nous n'avons même pas d'imprimerie pour imprimer ces papiers cartons-là qu'on met comme une. Nous n'avons pas une usine, nous devons avoir des petites usines de fabrication de plastique là qu'on met comme urne et ainsi de suite, mais nous devons aller les acheter en Corée, tout simplement parce que, bon, vous voyez ce que je voulais dire. Alors, l'effet de surévaluer les besoins électoraux, l'impression des papiers qu'on peut faire ici, la CENI là devait disposer d'une imprimerie là-bas pour imprimer les bulletins et tout ça, on est obligé d'aller les faire ailleurs. Je ne sais pas pour quelle raison. Et à ce moment-là, lorsqu'il faut aller continuer à faire respecter le cycle, ça devient de longs processus et ça devient coûteux au point d'avoir l'impossibilité de les réaliser.
Maître Soudi.
Donc, ici, oui.
Vous évoquez, n'est-ce pas, les contraintes financières, n'est-ce pas, pour justifier le fait que les pays ne sont pas en mesure d'organiser ces élections à la base. On se rappelle que depuis 2006, hein, c'est les élections, c'est la présidentielle, législative nationale, législative provinciale qui sont beaucoup plus utilisées, 2006, 2011, 2018, 2023. Et évidemment, la différence avec 2023, parce qu'il y a eu l'élection des conseillers municipaux. Mais est-ce que vous pensez qu'au-delà des contraintes financières, au-delà de ces difficultés financières, vous pensez que l'homme politique congolais aujourd'hui a besoin de ces institutions à la base? Est-ce que ça, les institutions à la base pour l'homme politique congolais aujourd'hui constituent une préoccupation?
Non, je vais directement répondre par non. Parce que lorsque vous voyez comment les choses tournent, on oublie que nous devons être gérés, nous tous, à la base. En commençant par le président de la République jusqu'au plus petit des citoyens congolais, nous tous, nous devons d'abord être gérés à la base. Mais ce n'est pas la préoccupation là aujourd'hui. Nous avions proposé à l'époque, quand on élaborait les lois, parce qu'il y a le conseiller communal qui venaient de dire qu'ils ne sont pas payés, ainsi de suite. Et voilà un autre problème. Ailleurs, parce que, et c'était ça la proposition qui avait été faite dans la loi, pour que ce soit les députés nationaux, que ce soit les députés provinciaux, les députés municipaux, ainsi de suite, les conseillers urbains, les conseillers municipaux, qu'ils puissent bénéficier d'un gestion de présence, parce que eux, ils ne siègent que pendant la période de leur session. Mais lorsque c'est arrivé au Parlement, là où je reviens encore sur le manque de volonté du politique congolais, ils sont revenus sur la question des salaires. Et aujourd'hui, les salaires des députés explosent. Tous ceux qui vont aux élections, ils ont d'abord à l'idée d'avoir un bon salaire pour commencer à faire le travail de la population. Alors qu'ailleurs, les conseillers municipaux qui sont avec nous sur ce plateau, qu'ils se renseignent sur ses collègues de l'Afrique de l'Ouest, ils n'ont jamais eu de salaire. Mais il y a des conseillers qui se battent là-bas pour le développement de leur population. Ils ne peuvent que bénéficier d'un jeton de présence. Mais lorsqu'on instaure le système de salaire, on crée une autre deuxième fonction publique au niveau des fonctions électives, ça posera des problèmes et nous allons faire échouer ce processus dans ces pays parce que tout le monde rêve d'avoir un gros salaire, qu'on lui distribue une Jeep, ainsi de suite. Ailleurs, sont députés, sont élus locaux, des gens qui ont leur vie, qui font leur vie ailleurs, qui sont dans d'autres activités au sein même de ces entités. C'est ça la grande difficulté.
Donc, mais à travers votre proposition des mandats que les conseillers communaux puissent avoir des jetons, qu'est-ce que vous visiez quand on sait qu'avec ces jetons-là, ces conseillers ne peuvent pas avoir accès à un salaire, n'ont pas droit à un salaire, et comment peuvent-ils vivre quand ils n'ont pas de salaire?
On ne vient pas dans une assemblée pour vivre de l'assemblée. C'est ça la grande difficulté. Vous voyez aujourd'hui, les députés provinciaux ne sont pas payés. Et au lieu de demander leur salaire à la province, parce que nous avons la séparation des finances publiques, ils viennent demander ça à Kinshasa. Et les autorités de Kinshasa et ceux des provinces ne comprennent même pas ce que c'est le fonctionnement de ces institutions décentralisées. Ils doivent vivre de ce dont ils ont toujours vécu. Et ils doivent bénéficier du jeton de présence parce qu'ils viennent travailler pour le peuple au sein de ces assemblées. Et c'est pendant la tenue de ces sessions qu'ils doivent bénéficier des jetons de présence. Et mais allez vérifier à l'Assemblée nationale aujourd'hui, on leur donne des salaires faramineux et on leur donne en plus des jetons de présence. Ça, moi, je considère ça comme un vol pour la République.
Merci, Monsieur Senda. Vous allez réagir. Hein. On va commencer à prendre les réactions des auditeurs qui sont en train d'appeler. On me dit qu'on n'a encore personne jusque-là. Il n'y a aucun auditeur qui appelle jusque-là. Monsieur Senda, est-ce qu'il y a possibilité de réagir à la réflexion du conseiller municipal Patty Kumambu ainsi que à l'analyse de Maître Soudi Kimputu Alimasi?
Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Je voudrais bien réagir au propos du dernier intervenant. Et je pense que dans ce qu'il a dit, il a donné des éléments d'explication aux problèmes que rencontre la CENI et même à la planification de la CENI. Tout à l'heure, il a dit, j'avais entendu dire, il y a 830 secteurs échauffés. Mais moi, je sais qu'il existe 734 secteurs échauffés. Cette différence traduit déjà une certaine instabilité des entités. Et lorsque les entités affichent cette instabilité, il faut savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Nous, la CENI, nous avons été en séance de travail, plusieurs séances de travail avec les experts du ministère à la décentralisation autour des entités qu'il fallait par tous les moyens stabiliser. La seule convergence qu'il y a eu était que seules les communes des villes, chefs-lieux de province répondaient à tous les critères qu'il fallait pour qu'elles puissent jouer le rôle de circonscription. Lorsque vous parlez d'une ville, encore faut-il que l'autorité de tutelle vous dise quelles sont les communes de cette ville. Au-delà de la nomination des communes, il faut devoir les délimiter pour qu'on ne puisse pas laisser passer les électeurs d'une circonscription à l'autre. Ces éléments-là ne sont pas disponibles jusqu'aujourd'hui. Il a fait allusion à 96 villes. Oui, 96 villes, je sais, mais dans les 96 villes, vous avez parlé au Kasumbalé, c'est ce qui pose problème. Vous avez d'autres villes qui posent problème, pour lesquelles on n'a pas des éléments stables. Et la CENI ne peut pas aller là où il n'y a pas des éléments établis parce qu'on peut l'accuser de rien. La CENI n'a pas mandat de créer des entités. Ça relève du ministère de la décentralisation, ou si vous voulez, du ministère de l'Intérieur qui gérerait la décentralisation. C'est ce ministère qui met à la disposition de la CENI la liste exhaustive et finale de toutes les entités appelées à jouer le haut et pouvant avoir le statut de circonscription. Quand nous étions en train de préparer, l'autorité concernée n'était pas en mesure de nous remettre une liste définitive stabilisée. Ça, c'est un des deux. Bon, je ne sais pas sur base de quoi il parle de surévaluation. Au même moment qu'il parle de surévaluation, il met en évidence les difficultés de la CENI. La CENI n'a pas d'imprimerie, il faut importer. Mais ça justifie justement ce coup-là. Donc, je vois pourquoi on peut à la fois parler de surévaluation et au même moment, on donne les éléments qui font que ça coûte cher. Il faut aller ailleurs pour aller chercher ça. Donc, il y a une petite contradiction, je ne comprends pas très bien. Il pourra peut-être nous expliciter, mais moi, je ne peux pas comprendre qu'on parle de surévaluation. Au même moment, on dit que la CENI n'a pas d'imprimerie, il n'y a pas ceci, cela. Il faut aller en Chine. Effectivement, nous allons en Chine. Effectivement, nous allons à l'Afrique du Sud. Effectivement, nous allons en Corée. Et ça fait que. Et enfin, vous l'avez dit vous-même, nous sommes les premiers, c'est le premier cycle qui organise les municipales. C'est un coup.
Oui.
Et nous sommes le premier à organiser la diaspora.
Oui, mais c'est
là les éléments qui peuvent expliquer que ça coûte un peu plus cher que les éditions antérieures.
Voilà, ça coûte cher comme vous le dites, mais aussi le fait qu'il n'y a pas les listes ne sont pas exhaustives par rapport aux entités que vous avez évoquées ici. On peut conclure en disant que la CENI n'est pas prête, n'est-ce pas, à organiser des élections là où il y a encore beaucoup de lacunes.
Bon, la CENI est prête. La CENI est prête à organiser comme elle a organisé partout où elle a organisé. Mais qu'on mette à la direction de la CENI les éléments dont elle a besoin. Ça ne dépend pas de la CENI pour qu'on dise qu'elle n'est pas prête. Elle est prête à le faire.
Merci. Vous allez réagir, monsieur Senda, à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis un certain moment, depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
C'est le Seblé Saïd Atouk depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Ces reports étaient prévisibles. L'inquiétude reste à préciser la date de ces élections. Le gouvernement, avec son projet de loi, s'est précipité pour ces élections pendant que rien n'était pour ces élections. Aujourd'hui, même ces conseils municipaux, ils n'ont rien touché comme un franc depuis les élections. Si on a la bonne foi d'organiser ces élections, on devrait donner la date, mais la signer à laisser un flou. Lorsqu'on a dit qu'il n'y a pas de budget, comment est-ce qu'ils ont élaboré le budget pour les élections?
Alors, apparemment, il est coupé. Monsieur Senda, est-ce que vous voulez réagir à ce que l'auditeur vient de dire?
Bon, je crois que je l'ai dit au départ. Je dis qu'un calendrier avait été sorti, avait été publié, je voulais dire. Le calendrier est sorti, je crois, depuis le 26 novembre 2022, je crois. C'est depuis le mois de novembre 2022 que le calendrier général avait été publié, qui reprenait tous ces scrutins-là. Ça se trouve dans le calendrier. Et c'est budgétisé. Mais c'est celui qui doit mettre à la disposition de la CENI les moyens pour organiser. Tu dois le faire. La CENI est prête, elle a tout ce qu'il faut. Mais il faut qu'on mette à la disposition les moyens dont elle a besoin. Donc ça ne dépend pas de la CENI, ça dépend du pouvoir public qui nous finance tout. C'est les trésors publics qui financent le sport, c'est les trésors publics qui financent l'enseignement, c'est les trésors publics qui financent les fonds de guerre, c'est les trésors publics qui financent les élections. C'est pas la CENI qui aurait saqué sa part pour faire ça.
Merci.
Qu'on mette à l'exposition de la CENI les moyens nécessaires, on va le faire.
Merci. Patti Koumambou, vous allez réagir aussi à la réflexion de cet auditeur qui nous a écrit. Il s'appelle Jafet, il nous écrit depuis la ville de Kinshasa. Il dit que le gouvernement congolais doit être responsable en ce qui concerne les affaires de la chose publique, en dépit du fait que le gouvernement rencontre plusieurs problèmes, surtout la question de la guerre dans la partie orientale de notre pays, mais il doit assumer d'autres responsabilités. Je crois que la CENI a une bonne volonté d'organiser ces élections, mais par manque des moyens, les processus se traînent, d'où nous invitons le gouvernement congolais à financer la CENI et de payer les conseillers municipaux car ils sont dans leurs droits. Il s'appelle Jafet Eonga, il nous appelle depuis, il nous a écrit plutôt depuis Kinshasa. Monsieur Paty Koumambou.
Oui, je pense que je partage la vie avec M. Javet, parce que la situation que nous sommes en train de rencontrer, elle est tellement pénible. Je ne saurais la décrire en détail, en fait. Mais par contre, si je peux emprunter le mot de l'expert de la décentralisation, en disant que le processus est en panne. Alors, comment voulez-vous que l'État puisse décoller puisque la décentralisation est le vecteur de la bonne gouvernance? Moi, je suggère, premièrement, il faudrait que l'État nous accompagne. Non pas avec des impayements, mais préalablement avec des ateliers, n'est-ce pas, pour vulgariser ce que c'est la décentralisation. Parce que nous constatons même il y a un conflit entre préalablement le conseil municipal et l'organe de l'exécutif. C'est ça la base de toute chose. Deuxièmement,
ces conflits liés à quoi?
Nous voulons. Pardon, vous dites?
Ces conflits liés à quoi?
Ben, nous sommes un organe qui vient d'être installé, n'est-ce pas? Alors, l'exécutif actuel qui ont été nommés ne veulent pas accepter notre avènement. C'est ça qui pose problème.
Voilà, il y a aussi un autre aspect qui a été relevé.
En disant qu'ils ne sont pas redevables au conseil qui est l'émanation de la population.
Ok. Parce que, en fait, ils ont été plutôt nommés, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, il y a aussi un autre aspect qui a été relevé par l'expert. Hein, avoir des jetons pour vous, en lieu et place, n'est-ce pas, de réclamer des salaires.
Ça aussi, c'est une possibilité, mais en réalité, tous les deux sont nécessaires. Les jetons, c'est notre droit. Les émoluments, c'est aussi notre droit.
Merci. Merci beaucoup, Maître Soudi Kimputo-Alimassi. Vous réagissez aussi à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler une fois de plus de Kisangani, et M. Apollinaire depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Apollinaire Tchomba depuis Kisangani. Nous comprenons que la CENI n'avait pas réuni tous les moyens pouvant assurer les élections à tous les niveaux. Qu'elle annule cette élection et attendre le mandat prochain au lieu de l'organiser à la va-vite. Ça s'annonce déjà mal.
Maître Soudi Alimassi Kimputu.
Moi, je pense que je suis parfaitement d'accord avec lui. Parce que même si on organisait ces élections-là, j'ai bien dit qu'elles seront incomplètes. Hein, même si j'ai fait un lapsus sur le nombre des secteurs et chefferies, mais je pense que organiser les municipales et laisser les locales, c'est comme si on organisait l'élection du président de la République par 12 provinces, ou disons en termes de pourcentage, par 5 ou 6 provinces, à lieu et place des 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Donc ça sera quelque chose d'incomplet parce que nous poursuivons le développement local et que la communauté nationale doit être gérée par ses élus locaux. On ne peut pas les faire en termes de ces pourcentages. Je ne sais pas si c'est pour faire plaisir à qui ou pas. Je reviens un peu à la question d'instabilité des entités. Il n'appartient pas à la CENI de dicter l'ordre au gouvernement sur les nombres ou les limites de telle ou telle autre entité. Je voudrais dire à mon co-débatteur, l'expert de la CENI, que les secteurs et les chefferies, je suis l'un des rédacteurs de la loi en la matière, ont été figés. Ça veut dire on ne peut plus créer des secteurs, on ne peut plus créer des chefferies. Et toutes ces entités ont été créées avec leurs limites. Il en est de même avec des communes. Ce sont des anciennes entités, celles qu'on peut appeler aujourd'hui comme communes rurales, ce sont des anciennes cités qui ont des actes de création et de leurs limites. et la CENI ne reçoit que la liste des villes, des secteurs, des chefferies, des communes qui lui est transmise par le gouvernement. Et s'il y a des anomalies dans cette liste qui sont transmises, c'est à elle de se référer au gouvernement pour lui donner des pressions. Il n'appartient pas à la CENI de dire « je ne peux pas aller organiser les élections là-bas parce que telle entité n'a pas d'ennemis ». Qui lui a dit à lui que ces entités n'ont pas d'ennemis? Quand on les crée, ils sont créés avec leurs limites. Là où il y a des zones d'ombre, il y a toujours des mécanismes pour les trancher. Les communes rurales aujourd'hui sont des anciennes cités. Et les communes urbaines, elles sont connues de tout le monde dans toutes les villes où elles existent.
Oui, mais aussi,
ne représentent même pas 5% des problèmes qui peuvent se poser.
Voilà. Mais aussi, la CENI ne peut pas s'engager lorsque elle a en face d'elle un gouvernement qui ne lui dit pas les choses avec toutes les précisions, n'est-ce pas?
Non, le problème, c'est de savoir est-ce que la CENI a demandé cela au gouvernement et que le gouvernement n'a pas donné. Parce que la CENI ne peut pas globaliser l'ensemble de la question pour échapper à organiser quelque chose qui relève de l'obligation constitutionnelle et légale pour dire que bon, je ne peux pas aller parce que le gouvernement est censé n'avoir pas de précision. Les questions à régler autour des difficultés en termes de limites, j'ai élaboré moi la loi des limites sur les conventions, je sais de quoi il s'agit. Mais la question ne peut pas être globalisée, il peut y avoir des petites difficultés à résoudre, surtout pour les nouvelles communes qui ont été créées, qui débordent l'espace des anciennes circonscriptions et qui peuvent être facilement réglées. Et ou encore, le gouvernement peut décider autrement de lui envoyer une liste qui ne reprend pas ces espaces. Donc, il n'appartient pas à la CENI de refuser de poser des actes parce que elle estime que, selon elle, il y a des problèmes de limites ou tel autre endroit. Donc, moi, je pense que c'est. Il y a un problème là-dedans, de coordination et de suivi de l'ensemble d'activités. Et même sur la question de la surévaluation, effectivement, il y a surévaluation. Et moi, je pense qu'au lieu de consommer des milliards chaque année, pourquoi la CENI ne peut pas, une fois pour toutes, poser la question au gouvernement pour qu'on mette en place les grandes unités de production, parce que les élections, ça doit être une machine qui doit tourner. Nous, d'ailleurs, on avait proposé à l'époque qu'on puisse avoir une grande direction des élections pour éviter les CENI politisés, hein, qu'on ait une grande direction des administratifs qui sont là-bas, qui n'attendent pas des salaires faramineux, et qu'on les entoure de toutes les mesures nécessaires, comme ça s'est fait dans d'autres pays africains pour éviter des grandes dépenses.
Merci, Maître Soudi.
Moi, je pense que la CENI peut poser cette question-là au gouvernement pour la mise en place des grandes unités de production de tous ces papiers et tous ces caoutchoucs plastiques qu'on va chercher en Afrique du Sud, en Corée et en Chine.
Merci. Maître Soudi, nous sommes à la fin de l'émission. Vous allez aussi conclure. Hein. Je rappelle que vous êtes Maître Soudi Kimputo Alimassi, vous êtes expert en décentralisation. Et quelles sont les recommandations que vous pouvez faire, que vous pouvez, n'est-ce pas, formuler à l'endroit de la CENI pour sortir de cette sorte de blocage?
Moi, je pense que la CENI devra approcher le gouvernement pour qu'ils discutent ensemble sur les rattrapages de l'organisation des élections municipales et locales. Les deux doivent aller de pair. C'est-à-dire, comment planifier comme il faut ces deux scrutins. Et après, parce que ce sont les municipales qui engendrent les urbaines. Et lorsqu'ils auront clôturé cette étape, on a des élus locaux et municipaux sur l'ensemble du territoire national, et que maintenant, les mécanismes des municipales puissent déclencher les urbaines pour aller sur la suite. Parce que c'est le gouvernement qui doit rassurer à la CENI si les moyens sont disponibles pour se faire, ou s'il n'y a pas de moyens à ce moment-là, nous allons encore attendre comme on a attendu longtemps.
Merci, Monsieur Paty Koumambou, vous êtes président du conseil communal de la commune de Matete dans la ville de Kinshasa. Quel message vous avez adressé au gouvernement pour que, n'est-ce pas, la situation soit débloquée afin que vous, conseillers communaux, vous soyez dans des conditions, n'est-ce pas, d'exercer vos fonctions, de vous acquitter de vos tâches?
Merci pour la parole. Déjà, préalablement, je dirais je suis contre l'annulation de scrutins de bourgmestres et bourgmestres adjoints. parce que cela, ça va, n'est-ce pas, freiner notre processus électoral que nous, ce processus qui est tellement démocratisé. Et puis nous ne saurons cohabiter avec ceux qui sont nommés, qui se disent d'ailleurs non redevables à la population, et nous qui sommes l'émanation de la population. Donc, je demande au gouvernement de mettre le moyen possible pour le déroulement de ces derniers processus. Voilà.
Merci, Monsieur Joseph Senda, directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Comment vous entrevoyez la suite de ces processus électoraux? Est-ce que vous avez un message, n'est-ce pas, pour essayer de rassurer les uns les autres sur, n'est-ce pas, les bons déroulements de ces processus électoraux?
Donc, avant de répondre directement à la question, je voudrais revenir sur les propos de l'expert en décentralisation. Je crois que il a mis dans la bouche de la CENI les propos qui ne sont pas sortis de ma bouche. Nous avons précisé, et vous pouvez bien me donner raison, que nous avons eu plusieurs séances de travail avec les experts du ministère à la décentralisation. Et que si nous avons pris les circonscriptions, les 113, ce sont les circonscriptions pour lesquelles il ne se posait pas de problème. Et ça, c'est un résultat des travaux en équipe mixte entre les experts de la CENI et les experts du ministère de la décentralisation. Ce n'est pas sorti de la CENI. J'ai également dit que la CENI n'avait pas mandat d'octroyer un statut à une entité pouvant être considérée comme circonscription, que ça relevait de l'autorité qui a cette attribution, cette compétence dans ses attributions. C'est ce que moi, je dis.
Voilà.
Dis également que si on ne délimite pas une circonscription, les électeurs peuvent nager entre deux circonscriptions. C'est une source de conflit. Voilà ce que la CENI a dit.
Est-ce qu'aujourd'hui, M. Joseph Senda...
D'annuler la CENI... Oui.
Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Joseph Senda, qui est directeur des opérations à la CENI, peut rassurer la population, peut donner des garanties, n'est-ce pas, sur en disant que ce processus va aller jusqu'au bout?
C'est ce que je voulais dire. Nous n'avons pas, nous, le droit d'annuler un processus qui relève de la compétence du gouvernement en matière de financement. Il revient au gouvernement de dire haut et fort que je ne peux pas financer la suite. Ce n'est pas à la CENI de dire nous annulons, nous ne faisons pas ceci, cela. Mais non, la CENI va chez les bailleurs. Vassini vache aux les autres publics, c'est au trésor public de dire j'ai telle préoccupation, je ne peux pas faire ça, ne faites pas ça, reportez. C'est pas la CENI d'annuler la suite des processus électoraux. Non, pas du tout. La CENI tient au calendrier qu'il a publié, la CENI tient aux promesses qui lui ont été faites par le trésor public, par le gouvernement de la CENI. C'est le gouvernement qui revient de dire je ne suis pas en mesure de telle ou telle chose, nous pouvons reporter ça. C'est pas la CENI de faire.
Merci à vous, Monsieur Joseph Senda, Monsieur Patsy Koumambou et Maître Soudi Kimputuali. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci également à Donna Madimba qui l'a réalisé, à Billy Landry Betou qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka et de Clément Chimanga sous la supervision de Martin Sabujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne soirée au programme sur Radio Capi.